Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Ryan, je te donne le premier sujet ce matin, puisque bon voilà, tu voulais parler de ça à l'Université Columbia.
Tout de suite?
Oui, okay, parce d'accord. qu'on a une entrevue après, fait que j'ai devancé un petit peu ton sujet.
Ok, y a pas de problème. Bah, aujourd'hui, comme je vous avais dit, je vous ai parlé parallèlement à ça y a, la semaine dernière, du coup, de l'affaire avec l'Université Columbia. On s'était un peu penché sur l'affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. On parle quand même d'un événement qui a annoncé une série de nouvelles politiques, notamment des restrictions sur les manifestations suite à la révocation ouais. Par Donald Trump des financements fédéraux à hauteur de 40 millions de dollars. Cette décision, elle a été motivée par beaucoup d'accusations d'antisémitisme sur le campus et a soulevé des questions sur la liberté académique, mm-hmm. comme on l'avait vu passer à ça. Et bah, actuellement, je vais rappeler un peu le contexte avant toute chose. Bah, l'Université Columbia, qui a été située du coup, à New York, est un institut prestigieux qui a été au centre des tensions liées à la manifestation étudiante, notamment celle des pro-palestiniens, depuis le début de la guerre Israël-Gaza. Et en octobre 2023, bah, le 7 mars du coup 2025, l'administration Trump a annoncé l'annulation de 40 millions de dollars en subventions en contrats fédéraux, accusant l'université de ne pas protéger les étudiants juifs contre les harcèlements antisémites. Et cette décision s'inscrit dans un contexte plus large de pression sur les universités américaines, perçues comme dominées par des idéologies libérales, selon la politique qui est mise en place actuellement. En tout cas, des menaces similaires envers d'autres établissements comme Harvard ou Stanford ont été mis en avant durant cette période. Et le 21 mars 2025, Columbia a répondu accepter plusieurs demandes de l'administration Trump pour tenter de négocier le rétablissement des financements. Et vis-à-vis de ça, cette réponse, détaillée dans une lettre de plus de 40 000 mots que le président intérim Katrina Armstrong a été publiée en ligne, a suscité des réactions assez mitigées. Vis-à-vis de ça, la nouvelle politique qui inclut les restrictions spécifiques sur les manifestations à détail dans le document officiel de Columbia et a même été reportée par la CNN. Je vais vous faire un bref résumé de ce que j'ai compris et lu de ce document parce que quand même il y avait quelques métaphores dedans, donc j'espère avoir bien bien pris ça en compte. ça reste dans l'anglais. Donc vis-à-vis de ça, la clarification des restrictions de temps, lieu et manière, les manifestants dans les bâtiments académiques et les lieux nécessaires aux activités universitaires seront généralement inacceptables car ils perturbent les activités académiques. Toutes les activités de démonstration doivent se conformer aux politiques anti-discrimination et anti-harcèlement et une identification des individus participant aux manifestations doit être faite obligatoirement. Les individus, y compris ceux portant des masques ou couvre-visage, doivent présenter une pièce d'identité à l'université sur demande d'un délégué universitaire et d'un officier de la sécurité publique. Vis-à-vis de ça, le non-respect peut entraîner des sanctions, une escorte hors du campus ou une détention pour intrusion. La gestion des risques posés par les individus masqués, ceux qui ont un masque couvre-chef, couvre-chef c'est ou couvre-visage. Alors couvre-chef, j'ai pas trop compris, mais bon, pour couvre-visage...
Un chapeau.
Couvre-chef, je veux dire, genre, j'ai pas compris pourquoi ça serait une menace, tu vois, d'avoir un chapeau.
Bah, j'imagine que c'est pour cacher la couleur des cheveux, donc pour identifier moins bien la personne.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens qui auront ces attraits ne pourront pas être autorisés de cacher l'identité lors de la violation des politiques universitaires ou des lois, sauf pour des raisons religieuses ou médicales. Ces mesures s'inscrivent dans un cadre plus large de réforme, notamment la nomination du nouveau vice-provost senior pour superviser le programme d'études régionales, en particulier ceux liés au Moyen-Orient, et l'embauche de 36 officiers de sécurité avec des pouvoirs d'arrestation. Information transmise par l'AP News.
Donc, essentiellement, c'est manifester en silence et donner votre itinéraire, sinon c'est illégal et vous vous faites mettre dehors de l'école, littéralement.
Bah, actuellement, cette information et cette lettre de 40 000 mots et cette acceptation, elle a été assez inattendue. On s'attendait à beaucoup de réponses positives vis-à-vis de ça. Et l'impact potentiel sur les autres universités, au moins de 60 établissements sont face à des enquêtes similaires et les réponses de Columbia pourraient établir un précédent dangereux pour l'autonomie des universités à venir. De plus, les arrestations étudiants comme Mohamed Khalil, je rappelle, qui était un activiste palestinien, par les autorités d'immigration, illustrent une tension croissante, voire même exponentielle, sur les semaines à venir. En tout cas, le contexte social et culturel, je trouve, a un impact inimaginable. C'est une situation qui reflète la polarisation actuelle qu'on a aux États-Unis autour des questions de liberté d'expression, d'antisémitisme, de soutien et causes internationales, notamment le conflit Israël-Gaza, la manifestation sur le campus, souvent pacifique mais parfois marquée par des tensions, ont été amplifiées par les réseaux sociaux, rendant ce débat visiblement à l'échelle nationale. L'évolution des normes sociétales avec la sensibilité accrue aux questions de discrimination contraste, je trouve, beaucoup avec la pression politique pour imposer des contrôles plus stricts et créer un équilibre délicat entre sécurité et liberté académique. Moi, ma petite question, est-ce que selon vous, imaginez qu'on a ça à l'université de Sherbrooke, est-ce que vous accepterez les limitations qui ont été transmises en fait, au niveau de l'université? J'ai le droit de poser ce genre de questions. C'est une supposition.
Oui, ça serait très problématique. Quoique ça s'est vu un peu pendant les manifestations, les grèves étudiantes 2012-2015.
Je pense qu'il y en a eu une un peu sur le campus.
C'est vrai, il y a eu le campement, soutien.
Moi, j'étais pas là à ce moment-là. C'était avant septembre, si je me trompe pas.
Oui, c'est ça, c'était pendant l'été. Puis c'est ça, on avait essayé de limiter les étudiants à ce qu'ils restent dans le campement, qui n'est pas faire nécessairement de déranger dans l'école, justement, de ne pas aller troubler la quiétude des études à l'intérieur des bâtiments. Puis c'est ça, au final, on rapetissait la zone dans laquelle ils avaient le droit jusqu'à temps que finalement, ils étaient obligés de démonter le campement en tant que tel. Mais c'est ça, tu sais, on les a pas complètement interdits de manifester, mais on n'était pas non plus super tolérants si on voulait aller faire des levées de cours puis des choses comme ça. Fait que ça a été comme un 50-50, mettons.
D'accord, je vois.
Mais c'est ça, c'est ça. Pour la partie liberté d'expression, liberté de s'exprimer, ben là, c'est sûr qu'on on met ça un petit peu de côté dans cette...
Parallèlement à ça, moi, je trouve que sur les 60 universités, après avoir fait pas mal de recherches sur le sujet et m'être enseigné, j'ai remarqué qu'en fait, l'utilisation du levier financier, c'était un moyen aussi d'influence politique au niveau des universités. Il y a beaucoup d'universités qui sont en train de céder à cause des manques de financements fédéraux.
Est-ce que vous trouvez
qu'en vrai, ça se fait de menacer quand même les institutions ou même l'éducation en général par bien monétaire
Le département de l'éducation va fermer. Fait que déjà, en partant... C'est pas une priorité du gouvernement Trump en ce moment, puis c'est ça, c'était essentiellement le ministère de l'Éducation fédérale, c'était ça, c'était pour aider les plus petites communautés, c'était pour aider, c'est ça, ceux qui sont pas des écoles financées à 100% par les étudiants à peu près, fait que c'est ça, c'est un drôle de moment, puis ben, c'est ça, c'est de prendre l'éducation en otage, ni plus ni moins.
Littéralement. Mm-hmm. Même au-delà de ça, on a envie de se dire que... Moi, je pense actuellement, pour moi en tout cas, je pense que l'administration Trump a la nouvelle politique que Colombien a mis en place, tu vois, sur la lettre des 40 000. Moi, je trouve qu'il y a un peu quand même d'abusement, tu vois, genre sur la violation de la liberté d'expression étudiante, dans le sens où je me dis que, comme tu le montrais, en fait, c'est vraiment tu fais ton chemin, tu fais quatre pas en disant que t'es pas content et après c'est bon, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est...
Je sais pas, est-ce que vous pensez que ce genre de politique structurelle mise en place, elle apporte vraiment quelque chose en soi pour la sécurité étudiante?
Pour la sécurité étudiante, je sais pas, mais tu sais, essentiellement, c'est ça. C'est comme pour faire taire les voix dissidentes, peut-être un peu plus que d'autres choses. Je sais pas à quel point ça va empêcher les gens de s'exprimer, mais en tout cas, ou à la limite, ils vont sortir des zones du campus et iront manifester dans la rue.
Les gens vont toujours pouvoir s'exprimer, mais je pense que justement, en enlevant le financement, en mettant plein de conditions comme pas le droit de porter de masque, peu importe, on diminue peu à peu justement la liberté d'expression l'interdire.
C'est ça.
Si tu la restreins en soi, tu l'interdis.
Oui, c'est ça. C'est juste qu'ils font ça plus subtilement.
En tout cas, selon l'opposition, les groupes de défense de liberté académique comme le New York Civil Liberation Union, ils accusent Colombia de céder aux instructions sans prêter attention à la liberté académique. Mmh. Et même des experts juridiques comme Leah Littman de l'Université de Michigan remet en question l'autorité de l'administration Trump pour imposer de telles conditions, suggérant que Colombien pourrait avoir des recours légaux vis-à-vis de cette situation. Mmh. Donc peut-être qu'aussi L'université en soi ne cherche pas à s'impliquer énormément sur le sujet. Peut-être qu'il y a une peur ou une sensation d'être menacé.
Ben oui, parce que si en plus c'est ça, on menace de retirer le financement parce qu'on laisse autoriser des trucs de gens-là pour lesquels ils sont visiblement contre, ben c'est ça, on leur donne raison en pilant peut-être un petit peu sur notre orgueil parce que justement, on va se faire couper du financement ou on va perdre des chaires de recherche et des choses comme ça. Fait que c'est ça, on est...
Ben, de la technologie d'accès aussi, hein. Ou même des soutiens à autres. Mais le problème, c'est que c'est un jeu de la carotte et du bâton, quoi.
Oui, bah c'est ça.
Mais à échelle nationale, parce qu'on parle de plus de 60 établissements. Et il n'y a pas des psys, il y a Harvard et Stanford aussi dans les établissements.
Oui, c'est un peu tout le monde qui doit marcher au pas, sinon...
c'est ça, en fait. Non, c'est vraiment ça. C'est pas des blagues. En tout cas, moi, je dirais, pour finir sur cette chronique, c'est que les nouvelles politiques colombiennes, notamment les restrictions sur les manifestations, sont une réponse directe à la révocation des financements fédéraux avec des mesures comme l'interdiction des manifestations dans le bâtiment académique et l'obligation d'identification. Ces changements, bien que visant à répondre aux préoccupations de l'administration Trump, soulèvent des questions sur la liberté académique et pourrait influencer d'autres universités. On n'est pas sur la première affaire, mais sur un commencement. Illustrer les tensions entre politique, éducation, droit civil en 2025 nous rappelle quand même l'importance de trouver un équilibre essentiel entre sécurité, liberté et respect de la vie d'autrui et des diversités.
Exactement. Merci Ryan. Courte pause, au retour, on aura notre premier invité du jour sur les ondes de CFAQ 88.3.